Journée.
France Inter, il est 7h.
France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Lundi 25 février 2019, bonjour et bon réveil à tous, bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Green Book, sacré meilleur film aux Oscars, l'histoire d'une amitié entre deux hommes que tout devrait séparer dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Alfonso Cuarón, Oscar du meilleur réalisateur pour son film Roma. Palmarès et surprise de cette 91e cérémonie des Oscars dès le début du journal. Les autres titres, Bernadette.
14 djihadistes français remis à l'Irak par les forces démocratiques syriennes. Que faire d'eux ? Dossier ultra sensible au menu de la visite du président irakien à partir d'aujourd'hui en France. L'Église face à la pédophilie, que retenir du sommet inédit du Vatican ? Plus de 50 incendies en Corse, 2600 hectares dévastés du jamais vu en février. Le réchauffement climatique en cause. Vous aimez la viande, mangez-en moins, mais mieux. La révolution des éleveurs au salon de l'agriculture et une grosse colère, vous entendrez celle de Martine Aubry.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa Salamé.
Bonjour Ali.
Bonjour.
Daniel Morin en parlait, il a battu son record, son propre record, 14h au salon de l'agriculture. Oui, mais qu'en retenir sur les prix, sur la PAC, sur le glyphosate? Emmanuel Macron a-t-il convaincu? Réponse de la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, et notre invité à 7h50.
Et à 8h20, mobilisation sans précédent en Algérie, crise au Venezuela, situation politique en France. On en parle avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui sera l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Aimez-vous les uns les autres sur la scène des Oscars? Le réalisateur Peter Farrelly, Oscar du meilleur film pour Green Book, donne donc le ton de cette cérémonie. Corinne Pellissier, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce palmarès, on va le voir avec vous, est très centré en effet sur les différences, les sublimer, les dépasser.
Voilà, c'est le très beau message du film Green Book qui met en scène dans le sud profond des États-Unis deux hommes que tout sépare. Le chanteur noir Don Shirley, Marshall Ali, qui remporte au passage l'Oscar du meilleur second rôle, sont deux. Deuxième, et Viggo Mortensen, son chauffeur, qui lui est blanc. Le premier cultivé, raffiné, posé, élégant. Le second bourru et raciste. Ils vont former un duo à la fois drôle et profond. Un road movie en forme de croisade contre les préjugés avec de l'action, de l'humour. Le film, déjà récompensé aux Golden Globes, décroche 3 Oscars qui viendront peut-être mettre un terme à la polémique de l'année dernière sur le manque de diversité dans le cinéma. D'autant que ce n'est pas le seul film primé à dénoncer le racisme cette année. Il y a aussi Spike Lee, Black Hawk Man, déjà récompensé à Cannes et qui obtient l'Oscar du meilleur scénario adapté. Un film militant et une tribune pour son réalisateur.
Il y a 400 ans, les Africains étaient arrachés à l'Afrique et réduits en esclavage. J'aimerais remercier aussi ma grand-mère qui a eu une vie formidable en dépit du fait que sa mère, à elle, était esclave.
Voilà, discours fort de Spike Lee. Alors Corinne, on attendait beaucoup de cette cérémonie, pas comme les autres, sans présentateur, des votants renouvelés. Alors, promesse tenue ?
Une cérémonie plus courte, plus rythmée, oui, mais sans grand relief, sans humour, avec des discours de remerciement très plats en dehors de celui de Spike Lee. Sur le fond, on attendait beaucoup aussi du sort réservé à Netflix et au film d'Alfonso Cuarón, Roma, 10 nominations, 3 Oscars, meilleure photo, meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur. C'est la première fois que la plateforme était nommée dans une catégorie d'importance et c'est un gage de légitimité. Et puis, il y a le deuxième grand gagnant, Bohemian Rhapsody. La cérémonie s'est ouverte comme au César sur les grands tubes du groupe Queen. Un choix sans doute prémonitoire pour un film qui a connu beaucoup de péripéties mais qui a su trouver son public, notamment grâce au comédien Rami Malek, formidable dans le rôle de Freddie Mercury avec ses fausses dents, sa fausse moustache. 5 nominations, 4 récompenses. Le groupe Queen n'a pas fini de vendre des disques.
Merci Corinne. Et puis on retrouve l'esprit de ce palmarès avec le meilleur second rôle féminin pour Regina King, qui incarne une mère qui défend le petit ami de sa fille accusée d'un viol qu'il n'a pas commis. Enfin, Olivia Colman, Oscar de la meilleure actrice, intégralité du palmarès sur franceinter.fr.
7h05, l'actualité c'est aussi ces djihadistes français remis par les forces démocratiques syriennes à l'Irak.
14 djihadistes français qui avaient rejoint le groupe État islamique, faits prisonniers en Syrie par les forces démocratiques syriennes. Elles ont toujours dit qu'elles ne pourraient pas garder leur plusieurs prisonniers, d'où leur transfert vers l'Irak. Solution provisoire, la France aimerait bien qu'ils soient jugés sur place, mais les États-Unis font pression que chaque pays rapatrie ses djihadistes. La question sera discutée aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le président irakien qui arrive en France pour une visite officielle de 2 jours. Ce ne sera pas le seul dossier. Bagdad s'est imposé comme un pivot indispensable dans la région, Bertrand Galichet.
L'Irak est redevenu un pivot et un pôle d'équilibre dans la région, disait le mois dernier Jean-Yves Le Drian lors d'une visite à Bagdad. Un résumé du nouveau regard de la France sur ce pays auquel Paris vient d'accorder un prêt d'1 milliard d'euros sur 4 ans. Malgré une situation encore fragile, car les attentats en Irak restent fréquents, la France mise sur cet indispensable allié dans la région entre Syrie, Turquie, Iran et Arabie Saoudite. En recevant aujourd'hui à l'Elysée le président irakien Barham Saleh, Emmanuel Macron ne se contentera pas de parler de questions sécuritaires. L'Irak revient au centre du jeu diplomatique régional et tente de s'émanciper des pressions opposées des États-Unis et de l'Iran. La reconstruction de l'Irak intéresse les entreprises françaises. Le président Macron pourrait se rendre à Bagdad d'ici quelques semaines. Un partenariat stratégique de coopération économique et militaire est déjà programmé. Le chef de l'État Barham Saleh, un modéré élu en octobre dernier, est un Kurde, une communauté avec laquelle la France entretient des liens étroits.
Au Sénégal, le camp du président sortant Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour de la présidentielle. Pas si vite, rétorquent ses deux principaux rivaux. Ils assurent qu'il y aura un deuxième tour. Il n'y a que des résultats parcellaires, résultats officiels pas avant plusieurs jours.
Pédophilie dans l'église, y aura-t-il un avant et un après sommet du Vatican ?
Sommet inédit, voulu, organisé par le pape François. 4 jours d'opération vérité, l'église face à ses responsabilités. Des paroles fortes. Porte du pape annonçant la bataille totale contre la pédophilie comparable à des sacrifices humains. Pourtant, Mathilde Imberti, les victimes attendaient beaucoup plus.
Les victimes auront pourtant été omniprésentes lors de ce sommet. Leurs témoignages poignants, durs et accusateurs diffusés aux évêques. Mais au vu de la conclusion offerte par le pape François hier, elles se sentent déçues. Piero Borgi est une victime italienne de l'association Ending Clerical Abuse.
À part des déclarations principes, comme d'habitude, il n'y a aucune mesure concrète. Que nous attendons surtout, c'est que le clergé commence à dénoncer ses coupables, qui ouvre ses archives, qui les met à disposition de la justice pour indiquer ce phénomène et pour réparer l'injustice.
Le pape restait muet sur l'indemnisation des victimes. Il ne parle pas non plus de la transparence réclamée par la partie libérale de l'épiscopat. Pour le britannique Peter Sanders, l'une des premières victimes à s'être fait entendre, c'est une perpétuation de la culture du silence.
Du point de vue de la protection des enfants, ce sommet, c'est du temps perdu. Le pape ne nous a pas apporté la garantit que les prêtres coupables et les évêques qui les couvrent seront écartés. Il échoue à protéger nos enfants.
Le Vatican a annoncé 3 mesures immédiates. La rédaction d'un vademécum sur les procédures à suivre pour les évêques, un texte spécifique sur ce thème pour la curie et l'envoi d'équipes d'experts dans les pays les plus en retard. D'autres mesures doivent suivre, néanmoins promettent les organisateurs du sommet avec le temps. Ils repartent en réunion dès ce matin. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Plus de 50 incendies en quelques heures encore, attisés par un vent violent. 2600 hectares de végétation brûlée, dont près de la moitié à Calenzana, en Haute-Corse. L'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé, Christophe Giudicelli.
Les pompiers ont dressé une véritable barrière pour éviter ce qui aurait pu être une catastrophe pour la micro-région. Mobilisant sur la zone des moyens très importants, ils ont aussi et surtout bénéficié du soutien aérien de 2 Canadairs dont les largages ont été salvateurs et ont permis d'engager des hommes sur les lisières, explique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud.
C'est un travail sur ce type de relief très difficile qui engage beaucoup d'hommes. Mais heureusement, nous avons eu le concours efficace de 2 Canadairs qui sont arrivés du continent et qui nous permettent de limiter la propagation en direction de la forêt de Bonifato.
Les Canadairs devraient reprendre leur largage ce matin, mais ce sont surtout les hommes au sol qui, au prix d'un travail fastidieux, viendront à bout du sinistre, indique le colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur du service incendie de Haute-Corse.
On emporte des bâches à eau, des râteaux riches, c'est du grattage, du mouillage, et on favorise l'extinction de cette manière-là. C'est un travail rassemblé. De ce qu'on appelle le pionnier.
Le foyer, désormais aux portes de la forêt de Bonifato, n'efface pas la nuit d'angoisse de la population. Une 50aine de personnes a été confinée dans la nuit de samedi à dimanche. Une population encore sous le choc, comme en témoigne Marie-Josée, habitante de Calenzana.
Toute la nuit, les gens sont sortis des maisons, tout le monde a été évacué, ça a été terrible, quoi.
Ce feu, survenu en février, n'est en rien une surprise pour les pompiers, convaincus que tout ceci est lié au changement climatique.
Et la préfecture rappelle qu'il faut éviter au maximum les écobuages.
Et puis, salon de l'agriculture. nature oblige, Bernadette. Vous aimez la viande, mangez-en moins.
Moins, mais mieux, le slogan s'affiche en lettres géantes sur le stand des éleveurs du hall 1 du salon. Après les céréaliers qui se lancent dans la qualification haute valeur environnementale, c'est l'interprofession bétail et viande qui recommande le flexitarisme, c'est-à-dire on limite sa consommation de viande sans être pour autant végétarien. Une nécessaire adaptation, Manuel Ruffez.
Vous l'avez peut-être déjà vu cette pub, c'est l'histoire de Thomas.
Voici Thomas.
Thomas, il aime les séries en VO, le yoga, les jus détox, se déplace en vélo, contribue à préserver la planète, il aime tous les légumes et...
Et comme Thomas est flexitarien, il adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux. Aimez la viande, mangez-en mieux.
Il a fallu 2 ans de réflexion pour en arriver à cette campagne. C'est une réponse aux attentes des consommateurs qui déclarent aimer la viande, mais sont désormais soucieux d'environnement et d'origine. On est en phase avec la société, dit Dominique Langlois, le président de l'interprofession bétail et viande.
On est le reflet de ce qu'est le Thomas de notre film, qui est bien dans sa peau, qui mange des légumes, qui mange de la viande, qui se fait plaisir, mais qui aussi se préoccupe de ce qu'il y a autour de lui, de l'environnement, de la durabilité. Il veut se faire plaisir, et quand il mange de la viande, il veut se faire plaisir avec de la bonne viande, et de la bonne viande française.
Car il faut aussi le souligner, la consommation de viande a déjà beaucoup baissé en France, pour passer à 320 grammes par personne et par semaine. C'est l'occasion de monter en qualité, avec un objectif notamment de 40% en label rouge, pour soutenir cette filière qui compte environ 500 000 emplois directs.
Manuel Ruffez, stop aux gilets jaunes. Pour la première fois, une majorité de Français veut que le mouvement s'arrête. 55% selon le sondage Doxa pour France Inter, l'Express, la presse régionale. Lassitude qui profite au président de la République Emmanuel Macron reprend 5 points de popularité à 32%. Je vous avais promis une grosse colère, la voici, celle de Martine Aubry. Vous allez l'entendre dans ce reportage de Maxence Lambrec avec la maire de Lille, pas de flou, pas de loup, c'est clair et net.
Accueil glacial sur le parking, Martine Aubry, écharpe rouge, visage fermé, à sa droite Nicole Belloubet, à sa gauche Agnès Buzyn, devant elle un journaliste de La Voix du Nord et plus loin des professionnels de santé qui manifestent et viennent d'être éloignés par des CRS, décision inadmissible pour l'ex-ministre de la Santé.
J'ai été mise à santé, j'ai pas fait une seule visite sans qu'il y ait de manifestants, j'ai jamais fait charger la police,
dit-elle. Et le recadrage continue, Martine Aubry se sent méprisée, les ministres ne l'ont pas prévenu de cette visite.
Mais de toute façon, je suis habitée, il n'y a pas un ministre qui nous appelle. Le mépris des élus, mais attendez, c'est jamais arrivé.
Les ministres n'osent pas lui répondre, elle enfonce le clou.
On est à deux, je suis présidente du CHRU, je suis maire de Lille, voilà, personne ne nous appelle, c'est pas grave, le directeur m'a aussi. Mais je suis habituée, c'est comme ça, en permanence avec ce nouveau gouvernement. Là, et après, on nous parle de république et de démocratie.
Agnès Buzyn et Nicole Belloubet n'ont en effet jamais pris l'habitude de prévenir personnellement les élus en question. Pour cela, nous faisons confiance au préfet, ajoute le cabinet de la garde des Sceaux, et ça n'a jamais posé de problème. Martine Aubry est la première qui ose s'en plaindre publiquement, et cela aura sans doute son petit effet.
Voilà, et après le Martine des grands jours, un Monaco des grands soirs qui s'offre une victoire 2-0 sur Lyon.
Merci Bernadette Chamonaz.